9h28 minutes. Notre invité ce matin nous propose son livre « Qui veut la peau du Parti québécois ». Jean-François Lisée est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Paul.
Est-ce que, quand j'ai vu le titre, la réponse que j'ai eu envie de donner, plusieurs personnes peut-être?
Oui. Ben, fondamentalement, une partie de la nation québécoise, fondamentalement, là, avant de parler du discours médiatique...
Oui, ça, on va y venir, mais... Bon,
fondamentalement, moi, d'abord, j'étais aux premières lignes, puis j'ai eu ça dans la face, très, très fortement. Puis c'était pire qu'avant. Ça fait longtemps qu'on... Pierre Trudeau avait dit en 76, c'est fini le séparatisme, le PQ a gagné. Très souvent, on a parlé du déclin et de la mort du PQ, mais ces deux dernières années, j'ai trouvé ça particulièrement fort. Puis je me suis dit, finalement, il y a une partie de la nation francophone qui aimerait ça que ça s'arrête.
Qu'on n'en parle plus.
Que ça soit derrière nous. Pourquoi? En psychologie, ils appellent ça l'évitement. Évidemment, perdre deux référendums, se dire non deux fois, ça crée une douleur. Et quand tu vois devant toi un choix qui peut amener à une douleur, tu veux l'éviter. Tu voudrais que ça n'existe plus. Je ne dis pas que c'est tout le monde, là. C'est qu'il y a une partie de l'électorat francophone qui a cette réaction-là, y compris parmi des baby-boomers qui ont vécu cette douleur-là. Et donc, au lieu de dire posément, ben, le Parti québécois est moins fort qu'avant, il y a moins de députés qu'avant... ça va mourir. Il y a une insistance sur l'agonie, la mort, la disparition qui est excessive et qui vient, d'après moi, de cette volonté-là que la douleur ne se reproduise pas. Maintenant, je dis que c'est très malsain, puis c'est pour ça que je veux nommer ce problème-là, parce que ça empêche les Québécois d'utiliser un véhicule qui, à mon avis, est le meilleur, mais je suis biaisé, mais quand même un véhicule qui a beaucoup de qualité, qui était celui qui proposait, par exemple, le meilleur programme de virage vert de tous les partis.
Mais même à l'intérieur du parti, on l'a vu là, cette semaine avec Catherine Fournier, que j'ai reçue hier matin. Qu'est-ce qu'elle dit, dans le fond? C'est que le véhicule est pas un beau véhicule, c'est un véhicule qui est fini, qu'il faut s'en débarrasser, puis qu'il faut repartir sur un autre nom.
Elle a parfaitement internalisé ce que je dis. Puis, ce qui était extraordinaire, puisque je raconte dans le détail là, dans le livre, puis je sais que vous l'avez lu parce que vous êtes parmi les intervieweurs qui lisez les livres avant de recevoir les auteurs, et je vous en félicite, hein, c'est pas 100%. Je dis, il y a quelque chose qui s'est produit de très parlant dans la campagne électorale. Il y a un moment où j'étais, et je représentais le PQ, plus populaire que le meneur François Legault. Puis les gens me disaient, vous avez la meilleure campagne. Puis vous avez certaines des meilleures idées en santé, en environnement, pour la famille. Mais on ne vote pas pour vous quand même. T'sais? Les autres, on voyait, quand quelqu'un devenait plus populaire, son parti montait. Quand il était moins populaire, son parti descendait. Mais dans mon cas, je devenais plus populaire, le parti ne montait pas. Et ça veut dire qu'il faut isoler un élément. Qu'est-ce que c'est le sabot de Denver sur l'intention de vote du PQ? Et moi, je pense que c'est cet évitement-là. Malgré les qualités qu'on peut lui reconnaître, on se dit, même si Lisée propose de faire la souveraineté sur deux mandats, il propose quand même de la faire.
On ne veut plus n'entendre parler.
Il y en a qui ne veulent plus n'entendre parler.
Puis il y en a qui sont des, que je connais, là, qui sont des souverainistes, mais pour qui ce n'est plus une priorité. Bon. Ils sont rendus ailleurs. Tant mieux si ça se fait, puis tant mieux si on peut en parler. Mais c'est pas... Je vous donne l'exemple là, de la dernière élection. J'ai lu toute votre analyse. Moi, je résume en disant, les gens voulaient sortir le gouvernement. Ils ont dit, qui est le plus près? On se tourne vers même si on n'est pas d'accord avec la CAQ sur des idées.
Ce serait vrai, Paul, si on n'avait pas, disons, un échantillon de contrôle, comme on dit. On a exactement la même situation qui se passe en 2015. Alors, les gens veulent, au fédéral, se débarrasser d'Harper. C'est clair, c'est le consensus. Ils ont identifié leur instrument de changement, c'est le NPD. Un parti qui n'a jamais gouverné et qui représente le changement. Puis le vieux parti, qui est le Parti libéral du Canada, ils n'en veulent pas. Pendant la campagne, Mulcair déçoit, Trudeau étonne positivement, et il y a un moment au milieu de la campagne où le switch se fait. On dit, finalement, on peut changer d'instrument de changement dans le milieu de la campagne. Alors nous, c'était notre espoir que ça arrive, parce qu'on savait qu'il y avait des failles dans les propositions de M. Legault, puis même parfois, il était mal préparé, puis on dit, ça va paraître. Ça a apparu. Ce switch-là, il a été fait dans la popularité des chefs et des campagnes, mais pas sur l'intention de vote. C'est pour ça que...
Parce que vous aviez, quoi, le spectre de l'indépendance qui flottait toujours?
Moi, je pense que ça fait partie, non seulement le spectre de l'indépendance, mais la volonté d'en finir. Puis ça a tellement été important dans le discours médiatique dont je dis, je les blâme pas, je suis pas dans le mode accusation, mais je suis dans le mode constat. alors qu'il y aurait un narratif pour dire, vous savez, le Parti québécois, il n'est pas tuable.
OK. Hein? Mais je vais revenir sur le livre dans quelques instants. Oui. Là. Parlons de Catherine Fournier. Vous en pensez quoi? Vous avez expliqué un peu qu'elle avait assimilé. Mais le fait qu'elle quitte maintenant, que Jean-Martin Hossin, il semble-t-il pas très loin comme mentor, il va prendre la parole aujourd'hui à 12h30, est-ce que c'est un signe que le PQ s'en va dans le mur pour vrai, là, que c'était, comme pour reprendre l'expression, est appelé à disparaître?
Ben, si, non. Et puis,
non.
Non, parce que, regardez, le Parti québécois a survécu à la démission de Pierre Curzi, Louise Beaudoin, Lisette Lapointe, Jean-Martin Hossin. Il a survécu à la démission de Jacques Parizeau, Camille Lorrain. Alors, je pense qu'il va survivre à la démission de Catherine Fournier. Et en fait, le narratif...
Mais comment vous prenez ça? Vous étiez son chef. Vous étiez son chef.
Oui, je vais répondre à toutes vos questions, Paul, vous savez. Il y a un autre narratif qui devrait être, vous savez, le PQ, il n'est pas tuable. Puis peu importe les gens qui sont là puis qui démissionnent, il n'est pas tuable.
L'Union nationale disait ça aussi.
Ben non, parce que l'Union nationale, il n'y a pas eu du tout... D'abord, sa base militante n'était pas présente. Moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est mes salles étaient pleines, le congrès était plein, 40 % des jeunes formaient l'ensemble de nos... j'avais fait augmenter le nombre de X et d'Y partout dans nos instances. Il y avait plus de membres jeunes encore aujourd'hui au Parti québécois que la totalité des membres de la CAQ ou de Québec solidaire. Le DGE nous disait, mois après mois, vous battez tous les partis en financement populaire. Puis là, je sortais de ça, puis les gens disaient, vous êtes dans le coma, vous mourrez. Alors, il y a une distance entre le réel et la vitalité du Parti québécois et ce discours de mort.
Je reviens à Catherine Fournier. Oui. OK, vous étiez son chef.
Oui.
Elle a non seulement été élue pour la première fois comme députée du Parti québécois.
Sous ma direction.
Vous l'avez représentée donc à l'élection. Oui. Elle a été réélue sous la bannière du Parti québécois.
Je lui ai donné beaucoup de responsabilités.
Quand vous voyez quelques mois plus tard qu'elle nous explique que le véhicule est fini, là, il s'est passé quoi?
Bon, alors,
selon vous?
Ben, elle dit qu'il s'est passé l'élection. C'est vrai que l'élection est un électrochoc, puis on comprend qu'il y a bien du monde qui se dise « ouais ». Deuxièmement, la question de la marque de commerce du Parti québécois, c'est une vraie question. Est-ce que la marque de commerce est tellement amochée qu'on devrait en changer? Moi, j'explique dans le livre qu'il y a un moment où je regrette, parmi les erreurs que j'ai commises, les responsabilités que j'ai prises, on avait tellement changé des choses au Parti qu'on aurait dû avoir comme slogan le nouveau Parti québécois. Pas changer le nom, mais changer le slogan pour avoir une discussion.
Le nouveau Coke, ça n'a pas marché.
Mais le nouveau Parti démocratique, ça a marché.
Wow.
Le New Labour, ça a marché. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein? Il n'y a pas de certitude.
Non,
on
non.
fait ce qu'on peut. Alors moi, je ne suis pas fermé à ces choses-là. Maintenant, de quitter, d'avoir été élu sous une bannière et de quitter, même pas 6 mois après, c'est une rupture de contrat avec ses électeurs. Pour moi, c'est très, très clair. J'ai une certitude, c'est que un député ne devrait pas avoir le droit de changer de bannière, c'est-à-dire aller à un autre parti en cours de mandat sans retourner en élection. Ça, c'est une certitude. Est-ce que dans les 6 premiers mois, quelqu'un qui quitte le parti pour lequel il a été élu pour être indépendant devrait retourner en élection? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Quoi qu'il en soit, c'est clair que... je veux dire, Catherine, en étant présente à l'ensemble des discussions jusqu'à lundi dernier pour relancer le Parti québécois, et puis là, disant que maintenant, je vais faire ça de l'extérieur, on comprend pas très bien où ça va atterrir.
OK. Et Jean-Martin Hossin, là, qu'on soupçonne d'être derrière tout ça, oui, d'orchestrer d'une part, avoir conseillé peut-être à Mme Fournier de quitter, puis de partir un nouveau mouvement, pas un parti politique, mais un mouvement sur la souveraineté, En Marche comme Macron, ou je ne sais pas quelle sera la forme. Ça vous semble logique comme théorie de ce qui va se passer dans les prochaines semaines?
J'ai pas d'informations, donc je ne peux pas commenter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que qu'il y ait dans le PQ, à l'extérieur du PQ, dans QS, à l'extérieur de QS, dans la CAQ, à l'extérieur de la CAQ, des milléniaux ou d'autres qui veulent l'indépendance et une vraie action contre la crise climatique, par exemple, et qui disent le statu quo n'est pas supportable, il faut brasser la cage, il faut forcer les gens à se parler, c'est sain. Ça, c'est sain. Maintenant, de penser qu'on va créer parce que, tu sais, construire un parti, c'est extraordinairement difficile, puis penser qu'on va absorber un autre parti, c'est pas impossible. Ça prend des conditions très particulières.
OK, bien là, Jean-Martin Hossin, il a été député péquiste, il a quitté le PQ, il a créé Option nationale, il s'est fait battre. Il est parti pendant un bout de temps, il est revenu. Il paraît qu'il a regardé Québec solidaire pour avoir le comté d'Amir Kadir.
Ça, il dit non.
Ah, d'accord. Mais mettons,
c'est ce que QS dit, puis il ne faut pas toujours les croire.
Ça, vous en savez quelque chose.
Ouais.
Et en plus, il revient comme candidat au Parti québécois.
Oui.
Puis là, on le soupçonne d'être en train de celui qui tire les gens vers l'extérieur du Parti québécois.
J'ai pas d'informations, je peux pas commenter.
Je vous sais assez quand même renseigné pour ne pas regarder ça de façon indifférente.
Ah non, je suis pas indifférent, mais je suis pas assez informé.
Vous vous renseignez quand même, non?
Ben là, on va savoir quelque chose. C'est pas toujours facile de décoder Jean-Martin Hossan, alors je ne prétends pas pouvoir lire dans ses pensées.
Je reviens au livre. D'abord, il y a de longs passages sur la relation avec Québec solidaire. Vous, là, vous documentez ce que l'Alliance aurait donné en termes électoraux, que ce soit à Verdun, que ce soit dans le cadre d'une élection générale. Vous étiez convaincu d'avoir une entente de bonne foi avec les gens de Québec solidaire. Puis c'est là que vous avez découvert que Manon Massé, Gabriel, n'étaient pas les véritables dirigeants du parti. Mm-hmm. C'était des porte-paroles pas très fiables.
Exact. Puis je doute pas de leur bonne foi. Manon,
mais pas fiable.
Ben, c'est-à-dire, non. Puis c'est peut-être pas de leur faute, là. Mais bon, donc je dis, qu'est-ce qui a fait qu'au début de la campagne de 2018, la CAQ est partie première, nous, on était troisième. C'est deux événements, l'échec de la convergence avec QS, notre tentative, et le fait que la CAQ a gagné un an avant l'élection, un château fort
à
libéral
Québec, ouais.
À Québec, qui a donné le signal aux Québécois. Les libéraux peuvent être battus, puis c'est la CAQ qui peut les battre. Donc ça... Alors, je reviens, parce qu'il faut raconter l'histoire, puis je suis témoin, puis j'ai hâte de voir d'autres versions de cette histoire-là, mais comme moi et Véronique Yvon l'avons vécu de l'intérieur, c'est que, tu sais, on dit toujours, les souverainistes, c'est des chicanes. On entend ça, même ces jours-ci. Ben là, tous les souverainistes, le Bloc québécois de Martine Ouellette, Option nationale de Sol Zanetti, Québec solidaire et le Parti québécois étaient en train de négocier ensemble un parcours commun au-delà de nos divergences vers l'indépendance. Et ça aurait été un moment fondateur du mouvement indépendantiste actuel, contemporain. Et tout le monde avait mis de l'eau dans son vin et les négociateurs de QS, dont le co-porte-parole masculin, M. Fonte-Chilla, a signé. L'entente était signée. Sous la direction du Oui Québec, il y avait même une belle infographie, la conférence de presse était préparée, on allait annoncer ça, puis nous, on avait gardé le secret, ce qui était extraordinaire. Au caucus du Parti québécois, les gens étaient très contents à l'exécutif. C'est un moment très important vers la cohésion et l'indépendance. Et la veille de la conférence de presse, ou à peu près, le co-porte-parole masculin nous annonce qu'il vient d'être désavoué par les vrais patrons de Québec solidaire. Et que si on rend public l'entente...
Le Politburo.
Si on rend public l'entente, ils vont dire qu'ils sont pas d'accord. Mais c'est quoi ces genres de négociateurs-là? Puis ensuite, ils ont accusé Fonte-Chilla de pas avoir bien appliqué les mandats. Nous, on sait que c'est faux, parce qu'on voyait dans la salle de négociation qu'ils appelaient toujours au Politburo. Le Politburo a changé d'avis. Puis là, on s'est dit, waouh! Bon, grave erreur, hein, c'est parmi les 50 leçons que je tire. Il y en a une qui dit, écoutez, assurez-vous de ne pas négocier avec des porte-paroles, mais avec les gens qui ont vraiment le pouvoir. Et donc, c'est le récit que je fais. Et ce qui montrait que Québec solidaire, enfin, il y a plein de militants de bonne foi, là, puis il y a des gens qui, tu sais, Andrés, puis Amir, puis Gabriel, je pense qu'ils auraient voulu que ça se passe autrement, tu sais. Mais ceux qui dirigent, là, l'unité des indépendantistes, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de croître d'élection en élection, même si ça voulait dire que c'est un gouvernement de droite qui dirige, qui n'est pas indépendantiste, qui ne fait rien pour l'écologie.
Allez-vous jusqu'à dire que vous doutez de la foi souverainiste et indépendantiste de ces dirigeants de Québec solidaire?
J'ai aucun doute que Gabriel, Andrés, Amir, François sont indépendantistes.
Les autres?
À l'intérieur de Québec solidaire, il y a des indépendantistes, puis il y a des gens pour qui ce n'est pas important. Il y a sûrement une partie de fédéralistes. On sait que c'est le cas dans leur électorat. Mais Sol Zanetti, par exemple, c'est un indépendantiste. Bon. Mais le fait est que si on se divise, les fédéralistes sont au pouvoir. Et ça, c'était, nous, on disait, le bien commun fait qu'il y a des choses dans votre programme QS, là, on n'est pas d'accord. Mais il faut trouver les points sur lesquels on est en accord pour empêcher la droite fédéraliste non écologiste d'être au pouvoir.
Parlons des médias, parce qu'il y a quand même un bon chapitre là-dessus. Et intéressant. D'abord, vous l'avez un peu effleuré tantôt en disant que beaucoup de médias vous déclaraient mort, premièrement. Deuxièmement, vous avez reproché aux médias une certaine complaisance face à Québec solidaire, à leur proposition à Manon Massé. Vous trouviez que C'était pas assez mordant.
Il y avait une partie gratuite.
Oui. Puis, sincèrement, je pense que oui. Parce qu'on les prenait pas trop au sérieux.
Exact.
Je pense que c'est pas mal ça, la motivation. Puis ça a un peu changé vers la fin.
Oui.
Dans la mesure où là, on s'est dit, oups, ça peut-être que...
Ah, j'ai fait des gros appels aussi à dire qu'il n'y avait pas un seul journaliste sur l'autobus de QS pour poser des questions sérieuses tous les jours. Et TVA a envoyé un journaliste à partir de ce moment-là. Ça a été un peu mieux.
Puis là, vous expliquez tout le fonctionnement du spin. Puis là, en même temps, j'ai des auditeurs qui me disent, je regarde le journal de Montréal, c'est comme une espèce de... vaste panneau pour le Parti québécois. Il y a beaucoup de chroniqueurs souverainistes. Puis que, bon, les gens ont cette perception-là de médias étiquetés à un ou à une option politique.
Ouais. Bon, alors moi, je suis un ancien journaliste. Puis c'est comme les GI, on sort jamais complètement du journalisme. Et il y a tout un chapitre qui s'appelle « Le fascinant tango des médias et des journalistes », où là, je suis pas encore dans l'accusation, je suis dans l'explication. Je vais vous dire comment ça marche. Puis je dis que ça marche assez bien. Mais on a deux empires qui ont chacun un prisme. C'est sûr que l'Empire québécois voit l'actualité québécoise à travers un prisme québécois.
Nationaliste.
Nationaliste. L'essentiel, avec des exceptions, mais l'essentiel de ces chroniqueurs sont nationalistes, plusieurs souverainistes. Ils sont généralement de centre-droit, c'est des souverainistes de centre-droit, et ils sont plutôt pro-laïcité. Du côté de Radio-Canada... Et la presse, Radio-Canada voit l'actualité à travers un prisme canadien. Ils sont plutôt multiculturalistes et ils sont plutôt pour la rectitude politique, alors que l'Empire québécois résiste à la rectitude politique. Une fois qu'on a dit ça, puis en fait, ça se complète un petit peu, la couverture de la politique québécoise, elle est relativement équilibrée, relativement juste. Et contrairement aux États-Unis, où ils vivent dans deux univers parallèles, où ils ne s'entendent même pas sur les faits, ici, on s'entend généralement sur les mêmes faits. Alors, je trouve qu'en Occident, là, je connais un peu ça, en Occident, le Québec est assez bien servi par sa presse politique.
Vous dites dans le livre, puis là, je comprends les témoignages que vous avez eus des gens durant la campagne, et même après, là, les gens qui étaient déçus pour vous. Vous dites, je ne suis pas Lucien Bouchard, je ne suis pas René Lévesque, je ne suis pas Jacques Parizeau, je n'ai pas le charisme, ou en tout cas...
Exact.
Et que vous avez offert à deux reprises donc de quitter votre poste de chef de parti.
Mm-hmm.
Mais quand même, là, sincèrement, ce qui reste après avoir eu ce résultat, tu dis là, est-ce qu'un autre chef aurait vraiment pu faire mieux, selon vous? Ou de toute façon, on ne peut pas le savoir, là, mais est-ce que le PQ était condamné à ce résultat?
Bon, moi, je pense que c'est une bonne question, puis je me la pose. Bon. Avant la campagne, je me disais, bon, c'est sûr que les indications qu'on a, c'est pas que je tire le parti vers le bas, c'est que je ne le tire pas vers le haut. Je ne fais pas partie de la solution. Bon. Alors que je voyais que Véronique Yvon, quand j'avais offert la première fois, m'avait parlé de Jacinda Ardern, qui a été vice-chef du Parti travailliste en Nouvelle-Zélande. Mmh. Quand elle a été nommée vice-chef, ça n'a pas aidé le Parti travailliste. Mais sept semaines exactement avant l'élection, elle a accepté de prendre la direction. Puis là, il y a eu un engouement, Jacinda Mani, et elle a gagné. Minoritaire, mais elle a gagné, un renversement. C'est qu'avant l'élection, je me dis, peut-être qu'il faut essayer ça, ça va nous donner une chance. Après l'élection, ayant vu que je suis devenu le chef le plus populaire, ou disons le moins populaire pendant la campagne, je m'aperçois que c'était pas ça le problème, OK? Qu'il y a un autre problème. Alors, peut-être que la désignation de Véronique n'aurait pas eu cet impact-là. On ne le sait jamais d'avance. Maintenant, moi, je pense qu'au-delà de tout ça, et ce que j'explique dans le livre, la principale variable de l'élection de 2022, là, c'est pas est-ce que le PQ va être souverainiste, c'est la proportion de déçus de la CAQ qui vont choisir le PQ, alors que toutes les indications, c'était qu'on était de loin leur deuxième choix. Moi, je pense que à moins de...
Mais là, la question va revenir. C'est pour quand le référendum?
Bon, oui, elle va toujours revenir. Mais moi, je pense que le PQ va augmenter son nombre de sièges en 2022 et que tous les articles qu'on lit disparaître, l'agonie, etc., vont avoir l'air fous parce qu'ils vont augmenter leur nombre de sièges.
Parlez-moi donc de l'expérience, à tout le monde en parle avec Danny Turcotte, la carte en disant en fait que vous aviez un égo assez spectaculaire et que vous étiez bien avec vous-même. Étiez-vous fâché pour vrai?
Ben, tu sais, je venais de donner une entrevue puis d'écrire un livre où je prends la responsabilité de l'échec, où je fais, où je suis candide, je parle des erreurs qu'on a commises, puis j'essaie de tirer des leçons pour l'avenir. Puis là, à la fin de cette entrevue-là, on me demande de lire une carte qui dit de moi que je suis un prétentieux fini. T'sais? Je me dis, franchement. Puis en même temps, comme je suis plus politicien, je suis pas obligé de faire semblant que je trouve ça drôle.
Vous n'avez pas trouvé ça drôle.
J'ai pas trouvé ça drôle. Je trouvais que... Moi, en même temps, vous avez vu dans le livre, j'ai au début des chapitres, il y a des caricatures.
Oui, j'ai vu ça de,
puis
que vous avez collectionné.
Sont très dures.
À votre égard, oui.
À mon égard. Mais elles sont soit drôles, soit très parlantes. C'est que moi, la méchanceté dans l'humour, je suis pas contre. Mais plus tu es méchant, plus il faut que tu sois drôle. Puis là, cette carte-là était juste méchante. Je voyais rien de drôle là-dedans. C'est vrai que j'ai refusé de la lire. Puis moi, je suis pas rancunier, là. T'sais, 20 minutes, j'ai dit ce que j'avais à dire. 20 minutes après, j'étais chum avec Danny, puis pas de problème. Mais non, à un moment donné, il faut se tenir puis dire non, je vais pas lire quelque chose d'insultant à mon sujet.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Jean-François Lisée, donc le titre du livre, Qui veut la peau du Parti québécois, 9h49, et oui.
Et il va être disponible en librairie le 20, et on peut le précommander sur laboitelisée.com.
Il y a avec le sens du dédicace. Marketing en plus. Avec la dédicace incluse.
Avec une dédicace
incluse. C'est pas plus cher.
C'est moins cher, 10%.
On revient après ça.